Et maintenant? Où on va maintenant?
J'en sais rien, tu nous emmerdes.
N'empêche que j'aimerais bien savoir où on va, comme ça. Simple curiosité.
Mais il t'a dit qu'il en savait rien, que tu l'emmerdais, alors...
Tu fais pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. T'as jamais de vraie raison de se biler. Ils peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un.
On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
Pourquoi pas?
Les routes musicales sur Couleur FM.
Boulevard Vincent Scotto, dans le quartier Jean Fleury de Bourgoin-Jallieu. J'aperçois de ma fenêtre, du 8e étage, ce vaste serpent autoroutier qui se faufile en plein centre-ville. De ma fenêtre du 14e étage de la rue Arlequin, dans le quartier olympique de Grenoble, j'ai une vue splendide sur le Vercors. Et en bas de cette même tour, je ne vois plus que des tonnes de béton et des milieux d'habitations dites HLM. Nous partons ce mois-ci sur les routes de ces grands ensembles urbains qui font partie d'un récit qui alterne grandeur et décadence de la politique urbaine française à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Bonjour, nous sommes dans le numéro 2 des routes musicales. Les grands ensembles se présentent comme les réalisations emblématiques de la politique menée par l'État d'après-guerre dans le domaine de du territoire et de la planification urbaine. Alors, les ensembles urbains sont définis comme des ensembles de logements individuels ou collectifs, sociaux ou non. Alors, ils incluent le bâti, c'est-à-dire des immeubles de logements et d'équipements collectifs. Et puis, on a aussi le non-bâti, c'est-à-dire la voirie et les espaces verts. Alors, l'emploi du terme « ensemble urbain » indique qu'il s'agit d'un bâtiment ou exceptionnellement de bâtiments isolés qui structurent le cadre bâti puis qui témoignent des formes urbaines construites à l'époque soit par le public, hein, c'est-à-dire les organismes publics que sont l'État, ou des promoteurs privés. Alors, l'appellation de grand ensemble s'applique finalement sans distinction aux projets caractérisés par une architecture que tout le monde connaît plus ou moins, alors pas tellement à Bourgoin-Jallieu, mais plus à Grenoble ou à Lyon, comme une architecture de bar et de tour d'une part. L'essentiel, l'élément essentiel, c'est le caractère locatif de ces immeubles, et puis surtout, ce qui est important, et nous le verrons ensemble, leur zone d'implantation. Alors l'histoire de ces grands ensembles est indissociablement liée à celle des Trente Glorieuses, période mythique de la marche française au lendemain de la Seconde Guerre mondiale vers la modernisation. Afin de porter des projets de construction, véritablement avec une énorme ambition sans précédent, la ville du passé est présentée comme monstrueuse, rongée par une lèpre pavillonnaire qui, en train de miter sur l'espace rural, est profondément pathogène, où on trouvera la prostitution, la violence, la drogue, on y reviendra. Hein. Fléau auquel, eh bien, de manière éclatante, ce nouvel urbanisme, dans les années 70, semble gouverné par la rationalité. Alors, cette vision trouve son expression dans des réalisations monumentales, symbole de la puissance d'action du pouvoir au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et puis désignée hein, sous le vocable aussi abstrait qu'absolu, de grands ensembles. Donc les grands ensembles étaient pour les architectes et les technocrates des années 50 l'avenir du futur de l'habitat. Un imaginaire de la ville qui consiste à faire cohabiter dans le même quartier des milliers de personnes issues de la classe sociale différente dans un cadre d'architecture moderne. Alors au fil du temps, hein, ce cadre de vie imaginé par des architectes est devenu un environnement et vous le savez tous, de logements précaires, bruyants, où règne l'insécurité et la ségrégation. Alors habiter ces espaces nous permet de nous interroger sur le vécu de leurs habitants. Comment aujourd'hui les habitants qui sont dans les grands ensembles perçoivent leur espace de vie? Quelle place aujourd'hui ces ensembles tiennent dans les nouvelles orientations urbaines que sont la ville durable et la ville compacte? Quelle ville idéale pour demain? Alors il est certain que l'histoire nous invite à comprendre qu'un modèle urbain ne peut se pérenniser, l'urbanisation évolue toujours en fonction des besoins sociaux, politiques et économiques. Aujourd'hui, la priorité est de maîtriser la périurbanisation anarchique des villes, de favoriser la mixité sociale avec une plus forte densité des villes et une préservation des espaces naturels, et nous y reviendrons avec le cas de Bourgoin. Ces principes, nous les retrouvons dans la pensée moderniste des années 50, où les grands ensembles prenaient en compte une très forte densité, une qualité de vie de logement sain, agréable, loin de la pollution et de la vétusté des centres anciens.
Ma banlieue a des charmes que rien ne remplace. Pas bien loin, y a des coins où chaque dimanche on se délasse. Ma banlieue, grâce à toi tous les ennuis s'effacent. On devient très fleur bleue, c'est pourquoi j'aime tant ma banlieue. Quand on vit dans la capitale, on a besoin de changer d'air. Et vers la campagne on s'étale par la douceur d'un matin clair. On voudrait bien aller à Nice, hélas on n'a pas les moyens. Mais la banlieue a ses délices, c'est moins chic mais c'est aussi bien. Ma banlieue,
ma banlieue,
ma banlieue,
ma banlieue
a des charmes que rien ne remplace. Pas bien loin,
il
y a des coins où chaque dimanche on se délave.
Ma banlieue,
ma banlieue,
ma banlieue,
grâce à toi tous les ennuis s'effacent. On devient très fleur bleue, c'est pourquoi j'aime tant ma banlieue. Le soir on danse à la guinguette, aussi bien que dans un dancing. En espadrille et sans toilette, un vieux chandail comme smoking. L'orchestre n'est pas un jazz rock, c'est un phono un peu usé. Mais les doux refrains qui radotent finissent tous par un baiser. Ma banlieue a de beaux soirs que rien ne remplace. C'est l'instant si troublant où tous les deux chéris on s'enlace. Ma banlieue, grâce à toi le bonheur a sa place. On devient très fleur bleue. Amour, restons dans ma banlieue.
Lorsque le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme est créé dès 1944 dans le cadre du gouvernement provisoire de la République, son mandat est triple. Reconstruire le parc immobilier détruit durant le conflit, faire face à l'effort démographique, et résorber l'habitat insalubre que Reda Clair, dans la chanson « Ma banlieue » en 1937, nous chante. Alors au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la question du logement devient cruciale, tant la situation en ce domaine est préoccupante. À l'aube des années 50, le mal-logement affecte un tiers des Français. Alors, cette situation s'explique à la fois par de nombreuses destructions au cours du conflit, c'est 1 million de logements détruits, et parce que les efforts de reconstruction s'avèrent nettement insuffisants dans les années d'après-guerre. Entre 1945 et 1950, c'est seulement 200 000 logements qui sont réalisés, alors que même le pays connaît, lui, une croissance démographique, en tout cas un début. Les logements existants, eux, manquent véritablement singulièrement de confort. Un équipement très rudimentaire. En 1954, 4 habitations sur 10 ne disposent que de l'eau potable sur l'évier. 72% ne possèdent pas de WC intérieur. 82% n'ont ni salle de bain ni douche. En région parisienne, le logement populaire souffre du surpeuplement. 65 ménages des ouvriers disposent de moins de 10 mètres carrés par personne dans Paris. Les taudis sont alors légion, on en trouve 350 000 en 1959. Donc à la tête du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, entre 48 et 53, c'est Eugène Claudius Petit qui incarne mieux que quiconque la politique du logement de l'après-guerre. Alors, il considère qu'il faut construire rapidement, qu'il faut non pas seulement rebâtir de l'existant, il propose un programme de construction de 100 000 logements annuels, dont 40% de logements neufs. Et il bénéficie d'un financement public. En 1953, le successeur de Claudius Petit, qui est Pierre Courant, lance lui un plan de construction ambitieux qui prévoit de sortir de terre 240 000 logements par an. Alors, cela représente à peu près... Alors, pour la première fois, les aspects fonciers, financiers, techniques sont pris en compte. Hein. Et il faut compter qu'entre 1953 et 1963, c'est 1 million de logements qui vont être construits. 1 million. Donc, des grues absolument partout dans les périphéries des grandes villes. Alors, cette politique volontariste de construction de logements dits sociaux s'appuie sur des organismes spécifiques. Par exemple, on trouvera la Caisse des dépôts et des consignations, la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts, et puis de nouveaux mécanismes de financement. Par exemple, il y aura un impôt de 1% sur les charges patronales, dès 53. En 57, la vote d'un loi cadre prévoit la construction de 300 000 logements sur 5 ans, et avec les zones urbanisées en priorité. Alors, compte tenu de l'ampleur de la pénurie, il fallait construire vite et à bon marché. Et donc, les pouvoirs publics ont opté pour l'habitat collectif et surtout le béton. Le choix du logement collectif devait permettre à l'État de mieux peser en fait en matière d'aménagement du territoire. Il pensait que la verticalité serait la priorité et le mieux à faire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il s'agit de repenser, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de manière radicale l'organisation de la ville. Donc on prône la rationalité, c'est droit. Cette pensée s'attache à concevoir un espace adapté à l'homme contemporain, hein, et puis de lui proposer un cadre de vie hygiénique, harmonieux et qui repose sur une division des fonctionnalités, c'est-à-dire l'habitat, le travail, le loisir et une facilité de circulation. Et tout ça qui est organisé de façon géométrique. Donc c'est une vision moderne, qui est une ville qui est pensée, qui est prévue pour l'homme, une espèce de cité idéale où l'on retrouve une importance qui va être par exemple accordée au soleil, à des grands espaces et à la verdure. Les enfants profitent des espaces de loisirs, dans ces cités qu'on va appeler très rapidement des cités radieuses, hein, pas seulement qu'à Marseille. Et donc, on va un exemple, entre 58 et 62, dans le quartier Tesserre, dans les anciens marais de Saint-Martin-d'Hères du côté de Grenoble, eh bien, ce quartier qui est borné par les avenues Perrault et Jouot, on va construire un ensemble de 1268 logements qui est prévu pour 3000 personnes à peu près et qui seront gérés par les HLM de Grenoble. Alors, ce grand ensemble est composé de petits immeubles avec 7 tours qui forment un ensemble peu dense. C'est très peu grand. Par contre, les logements sont relativement de petite taille, 50% de T3. Mais enfin, on est au-dessus des 10 mètres carrés que l'on a vu dans l'exemple précédent sur Paris. Des jardins se situent au cœur de ces ensembles, le parc de Ouagadougou, les jardins du bassin Jardin des Buttes, des équipements qui sont nombreux, bibliothèques et centres commerciaux.
Les maisons de banlieue ont un air de famille, avec un petit perron, une allée de gravier, une cabane à outils, avec un toit de charmille, et puis aussi des fleurs que le vent fait danser. Banlieue, c'est un paradis que Dieu a mis sur terre. Banlieue, c'est après Paris ce qu'on a fait de mieux. Le dimanche matin, toutes les maisons s'astiquent, y a des tapis fouettés, des enfants aussi. On se livre avec joie aux travaux domestiques. Monsieur prend l'apéro au café de la mairie. Banlieue, c'est le paradis de tous les fonctionnaires. Banlieue, c'est après Paris ce qu'on a fait de mieux. Les commerçants de banlieue ont une petite voiture et viennent sur le pas de la porte apporter à manger. On achète son beefsteak au milieu de la verdure, on choisit sous le tilleul, on paye sous le marronnier. Banlieue, c'est le paradis de toutes les ménagères. Banlieue, c'est après Paris ce qu'on a fait de mieux. Comme on n'a pas toujours de quoi remuer la terre, on va chez le voisin emprunter ses outils. C'est une bonne occasion d'aller prendre un petit verre quand on part à 9h, on revient, il est midi. Banlieue, c'est le paradis où les voisins sont frères. Banlieue, c'est après Paris ce qu'on a fait de mieux. Les gosses vont à l'école qui est tout là-bas derrière. L'hiver il fait pas chaud, mais quand l'été revient, tous les petits banlieusards font l'école buissonnière. C'est pas de leur faute à eux, c'est de la faute au petit chemin. Banlieue, c'est le paradis des écoliers sur terre. Banlieue, c'est après Paris ce qu'on a fait de mieux. Les amoureux de banlieue ont un bal le dimanche. C'est toujours une guinguette qui s'appelle chez Léon. Garçon en manche de chemise, fillette rose et blanche qui a jamais eu d'amour sans un accordéon. Banlieue, c'est le paradis des amoureux sur terre. Banlieue, c'est après Paris ce qu'on a fait de mieux. Et puis quand vient la nuit, toutes les lumières s'éteignent. La banlieue va se coucher, y a que les outils dehors. L'aboiement d'un petit chien, un frisson dans un chêne, un train dans le lointain. C'est la banlieue qui dort. Banlieue, c'est un paradis que Dieu a mis sur terre. Banlieue, c'est le paradis de tous les gens heureux.
Robert Lamoureux, Banlieue, c'était le paradis en 1953. Autre échelle que le quartier Tesser à Grenoble, Sarcelles, ou le rêve d'ascension. Sarcelles, c'est 12 368 appartements qui sont construits entre 55 et 75, bâtis selon un plan urbain des plus rationnels. Des rues ouvertes, une circulation qui encadre les unités d'habitation, qui sont composées d'écoles, de commerces et de centres médicaux. Jean-Patrick Fortin, qui est un architecte et auteur du livre « Grands ensembles, l'espace et ses raisons » qui sont parus dans la documentation française en 2001, rappelle que dans les années 60, ce projet urbain est un projet de vie commune où la classe moyenne avait du pouvoir d'achat, des perspectives de vacances, un vrai dynamisme. Mais voilà, dans les années 60, cet urbanisme est vivement critiqué. Si les appartements sont équipés de toilettes, de baignoires, d'eau chaude, de grandes fenêtres, bien éclairées, l'architecture suscite quand même quelques réactions. Une certaine standardisation, des murailles de béton, une certaine répétition, c'est même pas une certaine, c'est une répétition, et donc une certaine déshumanisation, et cela malgré des espaces libres aménagés comme les espaces verts, des espaces de jeu, des espaces de détente. De plus, de vraies impressions de frustration sont partagées par les premiers locataires des appartements. Déjà dans le quartier Tesser, dès les années 60, il y a une certaine désillusion et on critique ces grands ensembles. D'abord, c'est un quartier qui est mal relié au centre-ville de Grenoble et pourtant, malgré sa proximité. La qualité du bâti est très moyen, les logements sont très petits, 60 mètres carrés, une voirie qui s'abîme très rapidement. Les problèmes s'accumulent. Aussi dans les grands ensembles Léo Jour de Grenoble, la périphérie lyonnaise ou bien la Courneuve à Paris.
À l'escalier, c'est bloc 21. J'habite un très chouette appartement. Que mon père, si tout marche bien, aura payé en moins de 20 ans. On a le confort au maximum. Un ascenseur et une salle de bain. On a la télé, le téléphone et la vue sur Paris au lointain. Le dimanche, ma mère fait du rangement pendant que mon père à la télé regarde les sports religieusement. Et moi, j'en profite pour m'en aller. Je m'en vais dimanche à Orly. Sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions pour tous les pays. Tout l'après-midi, y a de quoi rêver. Je me sens des fourmis dans les idées. Quand je rentre chez moi, la nuit tombée. À 7h05 tous les matins, Nicole et moi, on prend le métro. Comme on dort encore, on ne se dit rien. Et chacun s'en va vers ses travaux. Quand le soir, je retrouve mon lit, j'entends les Boeing chanter là-haut. Je les aime, mes oiseaux de nuit, et j'irai les retrouver bientôt. Oui, j'irai
dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions pour tous les pays, pour toute une vie. Il y a de quoi rêver. Un jour, de là-haut, le bloc 21 ne sera plus qu'un tout, tout petit point.
Départ à destination d'Amsterdam, Hambourg et Helsinki. Vol Finnair 854. Embarquement immédiat. Porte numéro 37. Départ à destination de New York et Houston. Vol Air France 007. Embarquement immédiat.
Les promesses ne résistent pas au temps. Construits au moindre coût, les logements aérés et lumineux se détériorent. Ce qui semblait merveilleux sous les crayons des architectes n'est plus aussi vivable que prévu. Le tout béton connaît ses premières dérives. La déception est donc à la hauteur des attentes. À cet égard, l'ironie douce amère du Dimanche à Orly de Gilbert Bécaud, chanson beaucoup moins innocente qu'il n'y paraît, est tout à fait symptomatique. Le morceau date de 1963. Alors même que les premiers grands ensembles sont sortis de terre depuis très peu, les paroles qui sont de Delanoë décrivent à merveille les sentiments ambivalents des premiers résidents de ces grands ensembles. Alors certes, un très chouette appartement hein, qui dispose du confort au maximum, nous dit Gilbert Bécaud, avec un ascenseur, une salle de bain, mais aussi la télé, le téléphone. Puis autant d'objets caractéristiques de cette nouvelle société de consommation qui donne l'illusion de la liberté. Mais l'illusion seulement. Le jeune homme de la chanson cherche à s'échapper de cet univers très étriqué. Un appartement sans âme, standardisé, situé en banlieue, assez près de Paris pour l'apercevoir, mais très au lointain, hein, mais trop loin pour s'y rendre aisément. Aussi, pour s'évader loin de l'escalier 6, bloc 21, le garçon part admirer sur les terrasses d'Orly les caravelles, les premiers avions à réaction, donc tout juste inauguré en 1961, et donc l'aéroport incarne alors à cette époque le lieu de la modernité, de l'évasion, par procuration, mais de l'évasion, avec un lieu qui permet de se changer les idées. Les avions s'envolent, estrient les cieux de leurs silhouettes effilées. Donc regardons par les hublots de ces oiseaux métalliques, le jeune homme imagine le ridicule bloc 21, minuscule, enfoncé dans la glaise. Il nous dit un jour de là-haut, un bloc 21 ne sera qu'un tout petit point. Donc l'aéroport offre pour le jeune homme du rêve, loin de l'appartement et de ses parents, déjà confis dans leurs petites habitudes de vieux, hein, puisque le dimanche ma mère fait du rangement pendant que mon père regarde la télé. Et puis il regarde les sports religieusement. Donc bien conscient de l'étroitesse de cet avenir dans ce très chouette appartement, que son père, si tout marche bien, aura payé en moins de 20 ans, le fils préfère imaginer un départ vers l'ailleurs, loin de son train-train quotidien, de l'atroce métro-boulot-dodo, quand à 7h25, tous les matins, Nicole et lui prennent le métro. Donc dans les années 70, ces grands ensembles sont alors perçus comme la source de tous les maux de la ville contemporaine, qui est responsable d'une désagrégation sociale, qui résulte du manque d'équipement et de l'isolement géographique.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec deux arbres, un pommier et un sapin. Au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta de grâce, de grâce. monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, monsieur. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin, avec un homme qui faisait son jardin au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur. De grâce, préservez cette grâce. De grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin.
Les routes musicales sur Couleur FM.
Jacques Dutronc, C'était un petit jardin, 1972. Dans cette chanson, les excès de l'urbanisation effrénée sont stigmatisés par Jacques Dutronc, des quartiers HLM sans âme, une marée noire et les problèmes de l'agriculture productiviste. Donc, dans le mandat Pompidou, que l'on surnomme le gaullisme immobilier, qui est secoué par des scandales d'enrichissement frauduleux contre l'obtention de marchés publics, juteux, eh bien, Jacques Dutronc pleure la fin des espaces verts et des jardins. Donc ces affaires font grand bruit à l'époque et qui touchent certains ministres. Donc à l'initiative de René Dumont, l'écologie politique naît dans les années 70. Lorsque Pompidou meurt en 74, la France a changé de visage. Les petits jardins des banlieues ont fait place aux supermarchés, aux tours de béton et aux parkings.
Il y a 50 gosses dans l'escalier d'une HLM de Gennevilliers. Et sur les murs, ils ont dessiné des chevaux et des poissons dans les ruisseaux, des petites maisons illuminées qui ont plein de fumée dans les trous de nez. Il y a 50 gosses dans l'escalier. Et sous le néon des plafonniers, ils font du bruit pour plus entendre le gay folklore des quins de tous les transistors et tout le boucan de cette cité qui n'en peut plus de se supporter. Il y a 50 gosses dans l'escalier qui passent leurs vacances d'écolier et sur la rampe, à défaut d'être au sport d'hiver, ils font du tir-fesse à l'envers. Et pourtant, il y a de la neige dehors, mais celle d'ici vous fout la mort. Y a 50 gosses dans l'escalier. Derrière les portes de chaque palier, y a des pauvres gens qui n'iront jamais voir la mer, qui ne connaissent que le RER. Et au boulot, la triste gueule d'un petit sous-chef qui les engueule. Y a 50 gosses dans l'escalier. On lit sur les murs écaillés des graffitis qui disent Thierry aime Corinne, c'est dégueulasse à la cantine. Le type du quatrième se saoule, le père d'Éric va voir sa poule. Y a 50 gosses dans l'escalier. Ils veulent pas connaître l'atelier où bosse leur vieux qui à 30 ans vous fout le vertige. On lui donnerait plutôt 100 piges. Le dimanche il veut même plus sortir. Il a qu'une envie, c'est dormir. Il y a 50 gosses dans l'escalier. Les filles plus tard veulent pas se marier pour faire des mômes dans cet univers de déprime. Malgré vos sourires et vos primes, s'il y a plus d'enfants mes bons apôtres, il faudra bien donner les vôtres. Il y a 50 gosses dans l'escalier qui rêvent du jour où ils vont se tailler sur une moto. Pour tout bagage, une vieille guitare, vers des blettes qui sentent pas le cafard, vers des copains et un soleil qui chauffe un peu plus que suite Créteil. Il y a 50 gosses dans l'escalier.
Pierre Perret est un chanteur engagé dans les années 60. Habitant à Gennevilliers, il critique le tout béton dans la chanson « Donnez-nous des jardins » et idem pour 50 gosses dans l'escalier. Il décrit les problèmes des banlieues dans la chanson. Derrière les portes de chaque palier, il y a des pauvres gens qui n'iront jamais voir la mer et qui ne connaissent que le RER. Alors, dans les années 70, l'accumulation des problèmes pousse les autorités à la création du bureau de conseil social qui ont pour objectif de centraliser les problèmes et éventuellement de solutions plus ou moins immédiates. En 1967, le premier ministre Raymond Barre a la mauvaise idée, et j'exploite, de créer les APL. L'aide personnalisée au logement. Alors pourquoi c'est une mauvaise idée ? Bien parce que désormais, les familles pauvres recevaient un pécule de l'État pour les aider à régler leur loyer. Et dans l'esprit de quelques bailleurs privés, eh bien c'est une aubaine inespérée. Les voilà assurés d'encaisser les loyers les plus modestes. Et donc, dans nos banlieues, dans les différentes tours et dans ces grands ensembles, on glisse alors d'une quête de mixité où on avait les classes moyennes et les classes les plus pauvres à une logique de rentabilité, puisqu'on sait que les loyers tomberont chaque mois. Les cages d'escalier ont été remplies à partir des années fin des années 70, début des années 80, n'importe comment. Plus rien n'est réfléchi, on demande à des familles qui arrivent de partout dans le monde, suivant les différents chocs migratoires que l'on a vus dans notre dernière émission, de vivre ensemble du jour au lendemain, sans ressources et sans se connaître. Des déséquilibres sociaux émergent, le communautarisme apparaît, le rêve moderniste est démantelé.
Certains sèment le rêve pendant que d'autres hésitent. Ce sont des rues, des bâtiment. Ce sont tous qu'ils ont vu de part en part en la traversant. Ce sont des murs, des portes fermées, des peintures au fat cap et des gueules à cerner. Ce sont des ruelles aux charmes certains. Ce sont des vieilles jacteuses aux fenêtres dès le matin. Ce sont des pleurs, des rires souvent. C'est une mère dépassée par sa fille 14 ans. C'est un clébard qui hurle et qui grogne en pleine nuit devant une poubelle qui brûle. C'est un domaine étiqueté comme à deux. C'est un trajet le matin après quelques pics fiévreux. Et c'est ma ville, la sombre et la ville. Car c'est ma ville où pâtit sa vie de sang. Et c'est ma ville, la sombre et la ville. Car c'est ma ville ivre, ma ville penche. C'est ma ville, la sombre et la ville. Car c'est ma ville où pâtit sa vie de chance.
Il pleut sur ma ville,
la sombre et la ville. Car c'est ma ville ivre, ma ville penche.
C'est un cratère au verbe acide,
un caractère sanguin aux artères puériles. C'est une victoire sous fête bruyante,
mur de pluie d'art cherche ciel brûlant.
Et des pics de verre qui lacèrent l'air avec des rires de pierre qui s'avèrent vrais.
Mais faible et vaine et la ville penche, et saigne et frêle quand le rire flanche.
D'apparence rude, avec des fils de perles pour qu'avance l'une.
Petite trêve pendant que l'autre peine à trouver ses marques de petite reine. C'était un soir de songe, la ville s'endormait, il en oublia le nom.
Bloc de pierre, paisible où quelques lignes récits s'entrechoquent et se résignent. C'est un bloc de haine abrasive où certains sèment le rêve pendant que d'autres hésitent. Ce sont des rues, des bâtiments, ce sont tous qu'ils ont vu de part en part en la traversant. Ce sont des murs, des portes fermées, des peintures au fat cap et des gueules à cerner. C'est ma ville, la sombre et la ville. Car c'est ma ville où bâtit sa vie de sang. C'est ma ville, la sombre et la ville. Car c'est ma ville ivre, ma ville penche.
Sur ma ville,
la sombre et la ville. Car c'est ma ville où bâtit sa vie de sang.
Pleut sur ma ville,
la sombre et la ville. Car c'est ma ville ivre, ma ville penche.
Psychiclérica, ma ville. Aujourd'hui, on ne regarde plus ces grands ensembles avec envie. Alors que faire ? Démolir, convertir, mixer, renouveler ? Telles sont les questions qui se posent depuis les années 80. Alors, c'est pas faute d'avoir pris des mesures depuis ces années 80. Une politique de la ville se met en place. Elle a pour objectif de réduire les fractures sociales, menées conjointement par l'État et les collectivités locales. On crée en 1995, par exemple, les zones urbaines sensibles, ou les ZUS, qui bénéficient d'aides financières des pouvoirs publics pour lutter contre le chômage et attirer les activités économiques dans ces espaces. La loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, votée en 2000, cherche, elle, à limiter les phénomènes de ghettoisation et à encourager la mixité sociale dans les espaces urbains. Cette loi impose alors dans les agglomérations, par exemple, de plus de 50 000 habitants, d'offrir un minimum de 20% de logements sociaux. On réhabilite et on rénove les cités. Donc la politique de la ville a pour volonté de diversifier l'habitat, de développer l'activité économique et la formation professionnelle, d'implanter de nouveaux équipements et commerces fédérateurs, de requalifier des espaces publics structurants, de développer des liaisons entre les autres quartiers et d'améliorer l'accès aux transports. Au final, la politique de la ville cherche à garder une ville jeune, diverse, avec la mise en place de nouveaux écoquartiers où la mixité sociale est nécessaire, avec en parallèle des normes de haute qualité environnementale. Donc, un esprit qui était défendu au départ dans les années 50. Et pourtant, il y a 10 ans, les banlieues dites sensibles s'embrasaient après la mort de Ziad Benna et Bouana Traoré dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois. Pourquoi les émeutes ont-elles pris corps dans ces communes de Seine-Saint-Denis ? Pourquoi est-elle considérée comme un territoire enclavé ? Et à quel point cette situation d'isolement a-t-elle influencé le départ des émeutes en 2005 ? En 10 ans, des petits changements ont eu lieu, mais qui ne suffisent pas, certes, à Clichy-sous-Bois, de se transformer et, malgré l'opération de rénovation urbaine, ça ne suffit pas à soigner l'humain. Remettre les mêmes populations dans de nouvelles habitations ne règle pas les problèmes de chômage, par exemple. Même si de meilleures conditions de logement redonnent évidemment une dignité essentielle. L'attente des habitants et l'urgence sociale dans laquelle ils se trouvaient leur permet déjà de d'être moins abandonnés. Mais pourtant, l'abandon est toujours aussi criant. Aujourd'hui encore, et malgré des investissements coûteux consentis par l'État, le taux de chômage de ces us est 2 fois plus supérieur à la moyenne nationale.
Je suis astronome.
C'est soit le deal, soit c'est l'usine. Grandir dans un monde où l'altérité est assassine. Diplômé de la rue, notre vie étudiantine. La même couleur mais pas le dessin de Lamartine. Si on s'arrête un instant, que nous enseigne-t-on? On s'en sort si on le veut vraiment. J'ai poussé ma réflexion, le soleil était absent. Je me suis fait pluie en attendant, mais tout prend l'eau, trop de mecs nous bassine. C'est comme dans Matrix, le règne des machines. Du rap ne subsiste que le bachic. La mort de Pavlos Fissas, c'était un hic. Mais rien n'est illogique. De la crise naissent tous les fascismes classiques. L'histoire ne se répète pas mes rimes. Abîme toujours les mêmes, drôle de mise en abîme. Effet miroir, toutes les vies sont comestibles. Ghetto, terre, terre et guerre intestine. Je suis né dans le pays de la guillotine. Musulman et noir de peau, qu'est-ce qui me détermine? Qu'est-ce qui se joue dans ma poitrine? Mon cœur cesse de battre parfois, c'est la routine. Est-ce donc ça qui discrimine? Je n'entérine aucune nouvelle doctrine. Ne suis-je pas un enfant de la République? La République, lyricalement, je suis instrument. Je suis instrument. Lyricalement, je suis instrument. Je suis instrument, lyricalement, je suis instrument. Je suis instrument.
Abdelmalik Halogène 2015. Abdelmalik, dans cette chanson, est très clair. Le chômage est le problème de ces différents quartiers et l'altérité pose un véritable problème pour ces jeunes qui sortent avec un véritable bagage de ces espaces dits enclavés. Alors, comment faire de ces grands ensembles un lieu de vie, de nouveau, un lieu du vivre ensemble ? Habiter un grand ensemble, aujourd'hui, cela veut dire quoi ? Donc la politique des villes conçoit aujourd'hui une politique qui tente de mettre en place des villes dites durables, où les objectifs sont les suivants, c'est-à-dire amener un sentiment d'appartenance à un quartier, développer une vie sociale et désenclaver ces quartiers. Ce n'est pas que l'aspect environnemental. L'image pourtant des banlieues, aujourd'hui en 2015, reste biaisée, justement d'abord par le souvenir des émeutes de 2005 dans les quartiers. Et en réalité, la majorité des Français habitent en banlieue, ne vivent pas dans ces cités. Et pourtant, l'amalgame se fait. L'image des cités est toujours très négative. Les banlieues sont jugées pauvres, communautarisées et même dangereuses. Ce sont des stéréotypes qui sont ancrés chez les Français en général, mais aussi dans les habitants des banlieues. Il y a un sondage qui est paru en 2013 où on pensait, on posait cette question, tout simplement, on leur demandait « Avez-vous l'impression depuis ces années ?» que la méfiance à l'égard des habitants des banlieues progresse en Paris. En France, dans les banlieues, 73% répondent oui. Donc que la méfiance à l'égard des habitants des cités, 83% pensent que oui. Donc est-ce que vous pensez que l'État en fait trop, pas assez, comme il faut pour les banlieues ? 68% pensent qu'on n'en fait pas assez. Donc cette image des banlieues est véritablement bien ancrée chez les Français. On est dans les stéréotypes. Eh bien, c'est Oxmo Puccino qui nous le chante dans Pam Pam Panam.
Pam Pam Panam, Pam 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 Panam. Ah. J'ai grandi sur une île sans mer, aux vagues sèches et grises. Sur les hauteurs, je flottais en visant les autres rives. Des globules métissés circulent dans les artères bouchées du cannibale aux mi-pattes métalliques roulant dans ses bouches qui, à l'aube, crachent les gens qui baillent et les mangent aux heures de pointe. Les titis n'ont pas le temps de leur ville, les passants viennent de loin. Nous, dès qu'on veut profiter d'elle un peu, la vie se complique. Courir sans la forme olympique vous trace le regard oblique. À force de pression constante, la tension va cesser, tomber par imprudence. Des gens qui s'aiment sans garde se laissent tomber. Je démontre un escargot à la coquille dure à pénétrer, mais elle monstre très beau. À chaque retour, vous reconnaîtrez Panam, 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 Panam. Panam, Panam. Une créature de bitume, sa voix ferrée te crie dessus. Chuchote au marteau piqueur, les petits cœurs sont des fissures. Le temps se divise par quatre dans son œsophage. C'est lui la bête, mais c'est nous qui sommes en cage. Sans changer de taille, il grossit au risque de serrer sa ceinture jusqu'à déchirer le périphérique. À part sur l'avenue, tu feras pas 10 mètres sans toucher le mur ou sans qu'on te bouscule face aux fourmis, tu te sens ridicule. Après tout, que serait Batman sans Gotham quand le monstre s'assombrit, que les sourires diminuent. C'est à cause des gratte-ciel que les nuages éternuent. Alors l'orage gronde et la foudre précède. Pam pam panam, panam, panam. Panam. Même dans ces rares passages, le soleil sait se faire beau. La chaleur accueillie tel un joli fardeau. Magistral au mois de mai, la joie devient capitale. À demi-nu sur les terrasses, les fraîcheurs sont admirables. Les quais sont florissants, inondés de coulées vertes. Chaque rencontre se change en amicale découverte. Agrippé aux ailes des bateaux mouches, dans les parcs on pique-nique en chantant Panam, 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 Panam. Panam, 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 Panam,
Comment faire de ces grands ensembles donc un lieu de vie, un lieu du vivre ensemble? Prenons l'exemple du quartier Champfleury à Bourgoin-Jallieu. Donc, il cherche à faire, Bourgoin cherche à faire de cet ensemble urbain un lieu de vie donc dynamique et qui polarise une population jeune et une classe moyenne pour plus de mixité. Donc, tout d'abord, il s'agit de donner une nouvelle image de son quartier. Pour ça, on va d'abord s'attaquer à la question du paysage. Donc, la voirie et les espaces publics sont refaits, sont réhabilités. On réalise par exemple une voie verte sur les rues Buffon, Saint-Honoré, Henri Fabre. On crée à la place du Chopin un nouveau parc. Ensuite, on s'occupe de l'architecture des bâtiments en tant que tels. Sur le secteur Chopin, on construit 18 nouveaux logements avec très peu d'étages. Les tours, la verticalité se maintient, mais la hauteur des tours, on les rabaisse. Donc avec des couleurs, des ouvertures et puis des façades non uniformes. On corrige l'urbanisme des années 50-60. Deuxième élément, pour développer la vie sociale. Suite aux événements dans les banlieues en 2005, le vivre ensemble ne fonctionnait plus. Cet isolement entre les centres urbains dynamiques ont poussé les acteurs publics, privés surtout, à repenser les liens de sociabilité, ça c'est important, dans ces nouveaux quartiers. Alors c'est facile à dire, mais comment créer un monde de sociabilité? C'est difficile à mettre en place. Donc on retrouve des parcs importants avec des bancs où les gens peuvent se rencontrer le soir et la journée, des bibliothèques, les bancs, des associations et des lieux que les habitants vont s'approprier au fur et à mesure et qui vont transformer. Par exemple, les jardins ouvriers et solidaires. Alors, à Bourgoin-Jallieu, les jardins ouvriers, il en existe un petit peu plus loin que le quartier Champfleury, qu'on appelle le jardin des palettes. Mais c'est ça l'objectif, c'est cette volonté de rompre avec l'isolement et qui vise à la participation de toute personne, de tous les domaines de la vie de la société. Et puis, ça crée des solidarités à l'intérieur comme à l'extérieur, des immeubles. Et puis ensuite, on sécurise et puis on facilite le civisme. Tout ça, c'est le respect de la vie. Ça permet d'engager tout le quartier dans un respect de la vie en communauté. Créer des espaces de vie, mais c'est aussi protéger la vie familiale. Par exemple, 600 logements dans le quartier de Champfleury sont réhabilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont améliorés. L'isolation, on intervient sur le chauffage, sur les ascenseurs, sur les installations électriques. Au moins, tout fonctionne. L'isolation, c'est important. Dans les années 50-60, on critiquait fortement de connaître toute la vie du voisin puisqu'on entendait tout. Pareil, la disposition des bâtiments est repensée pour plus de lumière. Pour mettre au cœur de cette politique de la ville, la mairie de Bourgoin compte faire participer les citoyens en conseil. Il est important que les citoyens puissent donner leur avis puisque c'est eux qui vont y habiter. Donc, c'est quand même plus pratique. Donc c'est l'État qui va impulser ce type de projet avec ce qu'on appelle le conseil citoyen et donc Bourgoin expérimente ce type de conseil. L'objectif est de faire participer les habitants de citoyens sur un projet très précis, l'emploi des jeunes, le développement économique, l'amélioration du cadre de vie. L'objectif, nous mobilisons les habitants, puis l'État finance certains projets. Il est nécessaire, et je pense, que les solutions soient pensées de façon collaborative. Notre route musicale numéro 2 sur les grands ensembles s'arrête aujourd'hui ici. Pour réaliser cette émission, j'ai utilisé les travaux sur les grands ensembles de la ville moderne à la ville durable, quelle transformation pour quelle durabilité, qui ont été écrits conjointement par Amar Ben Salma, Marjorie Musi, Nathalie Simoneau de l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes, les analyses du site et du très bon site EastGeobox, des reportages sur Sarcelles tirés du journal Libération en septembre 2015. On termine notre route urbaine ce mois-ci avec le titre Time Travel de Superpose en concert à Bourgoin-Jallieu le 28 novembre. Au revoir. We'll be right back.
maintenant?
J'en sais rien, tu nous emmerdes.
N'empêche que j'aimerais bien savoir où on va, comme ça. Simple curiosité.
Mais il t'a dit qu'il en savait rien, que tu l'emmerdais, alors...
Ne te fais pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. T'as jamais de vraie raison de se biler. Ils peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un.
On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
Pourquoi pas?
Les routes musicales sur Couleur FM.